Les mémoires de Foudite et Chocolat, deuxième partie. Chapitre 7. Au cirque Tonugues. Un beau dimanche, alors que Raphaël, pour la plus heureuse aubaine des gosiers présents, exécutait un semblable tour, un gros monsieur, qu'accompagnait une dame de mise assez remarquable, s'arrêta, pour regarder, devant la porte du cabaret grande ouverte. « Il nous en faudrait un comme ça !» dit le gros monsieur à sa compagne lorsque Raphaël eut terminé, aux applaudissements de tous. La dame approuva et convint de bonne grâce qu'il leur en faudrait un comme ça. « En somme, reprit le gros monsieur, il n'a pas l'air d'un capitaliste et il accepterait peut-être, si nous lui demandions. « On peut toujours lui demander, acquiesça la dame. Ils pénétrèrent dans la salle et... D'abord, le gros monsieur dit ces simples mots. « Je suis Tonugues. » Tonugues, le clown fameux dont les affiches depuis une semaine couvraient les murs de Bilbao. Et, sans paraître attacher d'importance à l'émotion flatteuse que cette déclaration solennelle n'avait point manqué de produire, comme bien on pense, il reprit. « Je suis Tonugues. » Et dit-il en présentant sa compagne, « voici la femme de Tonugues. » Et il ajouta, désignant Raphaël, qui s'était approché avec admiration du célèbre clown. « Et voilà » ajouta-t-il en frappant sur l'épaule de Raphaël. « Et voilà l'élève de Tonugues, s'il plaît à ce vaillant jeune homme d'embrasser la carrière artistique et d'entrer dès aujourd'hui à mon service. » Et en menant près d'une table, à l'écart, Raphaël étourdi, bouleversé, muet, et l'asseyant entre sa femme et lui. « 20 sous par jour, nourri, logé, blanchi. Tu m'entends, jeune nègre, blanchi. » Et Tonugues éclata de rire, trouvant cette allusion infiniment piquante et plaisante. Et Raphaël, avec complaisance, se mit à rire lui aussi. « Blanchi. » « Allons, dit Tonugues, je vois que tu es intelligent. Je ferai quelque chose de toi. Je t'apprendrai à devenir un véritable artiste. Je t'apprendrai à recevoir des gifles. » « Je sais déjà, dit modestement Raphaël. Je t'apprendrai à en donner. » « Je sais aussi, murmura à nouveau Raphaël, encore plus modeste. « Alors, c'est dit, je t'emmène. » Ta garde-robe me semble un peu sommaire. Madame Tonugues, vous allez donner tout de suite en rentrant un de mes vieux pantalons au jeune homme. Le pantalon sera sans doute un peu large de ceinture, mais il suffira de le faire tourner 2 fois autour de la taille du jeune homme. C'est plus confortable, et on attache avec une ficelle. Tonugues avait prévu juste, le pantalon était un peu large. Pour les personnes qui désireraient fixer ce point d'histoire, il n'est pas inutile de rappeler, en effet, que Raphaël alors n'avait pas 16 ans et que Tonugues pesait environ 250 livres. Tout de suite, on mit le néophyte au courant de ce qu'il avait à faire. Peu à peu, plus tard, Tonugues, avec son collaborateur fidèle, Tony Toff, l'initierait à des besognes plus délicates, comme de figurer les pattes de devant ou d'arrière de l'éléphant ou du taureau. Pour le moment, sa mission se bornerait à tenir à la disposition de Tonugues les différents accessoires dont il pouvait avoir besoin, quand il l'appellerait à l'entrée de la piste. « Au fait, comment t'appelles-tu » demanda Tonugues. « Raphaël. »« Raphaël ? Ce n'est pas un nom. » Raphaël reprit bien vite. « On m'appelait aussi quelquefois le Rubio. »« Ah, le Rouquin ! Le joli blond, à la bonne heure. Voilà des noms. Et maintenant, mon vieux Rouquin, lorsqu'on a la chance comme toi d'être un nègre pour de bon, le vrai comique, le fin du fin, c'est de se faire passer pour un faux nègre. » Et sur l'ordre avisé du sagace Tonugues, dorénavant, chaque soir, au moment de paraître en public, Raphaël le Rubio dut se frotter le plus maladroitement possible les mains et la figure avec un bouchon noirci. En dépit de ses succès, de son nom déjà populaire et du très bel engagement qu'à son retour de Madrid on lui avait offert et fait signer au nouveau cirque, Foutit était mécontent, inquiet, mécontent de lui-même, s'entend, et pure inquiétude d'artiste. Eh oui, dans ce métier de clown, qu'un coup de fortune lui avait imposé et où du premier jour il s'était révélé un maître, il s'en voulait de ne point chercher à réussir par d'autres moyens que les anciens et les vulgaires. Il sentait qu'il y aurait autre chose à trouver et mieux à faire que les classiques grimaces et ses cabrioles surannées. Et si vraiment l'essence du comique pour les clowns est de donner des gifles et d'en recevoir, c'est là surtout que devrait se vérifier l'axiome que la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Et ce n'est pas tout de recevoir les gifles, mais, comme dit l'autre, il y a la manière. Et Foutit cherchait de nouveau, combinait et s'ingéniait. Et il s'attristait, s'irritait, à voir que ses efforts n'aboutiraient à rien, qu'il lui fallait, en fin de compte, se résigner aux farces traditionnelles, en revenir à de sempiternelles calembredaines, faute de quelqu'un qui cherchât avec lui, qui dans le même mouvement et à point nommé fût en mesure de lui donner la réplique. Sans doute il y a bien les écuyers, les messieurs en habit bleu qui font la haie à l'entrée de la piste, et que le clown peut prendre à partie, qui lui serviront de compère, de mentor ou de dupe. Mais n'avez-vous pas remarqué avec quelle mauvaise humeur évidente l'homme interpellé, Monsieur Alfred ou Monsieur Lucien, répondra à l'invitation du clown, et combien il se prêtera peu volontiers et gauchement et visiblement à contre-cœur au rôle indiqué. Il semble que Monsieur Lucien ou Monsieur Alfred tiennent à marquer les distances et à établir que s'ils daignent s'intéresser à l'entrée de ce paillasse, c'est par pitié, par condescendance. Mais qu'on le voit bien et qu'on ne l'oublie pas, que ce n'est pas là leur métier. Évidemment, on ne demanderait pas à Monsieur Alfred ni à Monsieur Lucien d'y mettre de la fantaisie. Mais le pis est qu'ils manquent totalement de bonhomie et de cordialité. Il faut ajouter que ce personnel d'écuyer se renouvelle constamment, que les attributions de chacun peuvent se trouver à tout instant modifiées, en sorte que le clown qui, la veille, avait tant bien que mal réglé une entrée avec M. Lucien, arrive en piste au moment où M. Lucien est aux écuries, et ne trouvera pas davantage à se rabattre sur M. Alfred, qui n'a que 7 minutes pour se préparer aux jeux icariens. Quant à faire appel à la collaboration d'un autre clown, c'est une entreprise bien délicate, et à laquelle, selon toute apparence, il sera plus raisonnable et plus sage de ne pas songer. Les clowns ne seraient pas des artistes si leur âme ne connaissait pas la jalousie professionnelle. Et les clowns sont des artistes, quelques-uns même de très grands artistes. Je dois dire, pour être exact et pour être juste, je dois dire qu'à la ville, et jusqu'à la représentation exclusivement, les clowns, plus que d'autres peut-être, se montrent entre eux serviables et bons camarades, volontiers l'un à l'autre. Ils s'enseigneront un tour difficile. Et dans ces répétitions étonnantes que sont les répétitions du clown, car chaque jour il est indispensable que les clowns viennent répéter, c'est-à-dire pour le moins se rouler sur la piste, marcher quelque peu sur les mains, exécuter 2 ou 3 sauts périlleux, bref, ne pas laisser s'endormir et s'engourdir leurs muscles. Donc, à la répétition, il n'est pas rare de voir un clown expliquant à un camarade le mécanisme d'un tour. Et tous se piqueront d'émulation, et, de la meilleure grâce, révéleront leurs secrets, s'entraideront pour la réussite d'un exercice, indiqueront, en décomposant les mouvements, comment ils font ça. Mais, dame, une fois devant le public, c'est chacun pour soi. Et, ma foi, chacun pour soi. Cela finit toujours par signifier que l'on est contre les autres et qu'on se laissera aller, par exemple, à abîmer leurs effets. Abîmer les effets, cela consiste, de la part du clown qui paraîtra le premier, à faire un peu de tout ce qui constitue le répertoire général et ordinaire des clowns équilibre avec les chapeaux, chute comique le long des banquettes, excès d'un zèle inutile et grotesque, parodie de l'écuyer. En sorte que, lorsque viendra l'entrée suivante, le clown qui comptait sur l'un de ses numéros pour faire son effet trouvera cet effet déjà brûlé, ou du moins diminué, abîmé. Certes, on n'abîme pas les effets d'un clown comme Foutite. Les maîtres inspirent un certain respect. Respect qui a d'ailleurs besoin d'être soigneusement surveillé et entretenu par celui qui veut en bénéficier. Et pour cela, doit toujours s'en montrer digne. Foutite en avait fait récemment l'épreuve. Un directeur de cirque russe, par des promesses magnifiques, l'avait entraîné assez brutalement à rompre son engagement au nouveau cirque. Et, une fois à Saint-Pétersbourg, Foutite avait constaté qu'à beau promettre qui promet de loin, et qu'en tout pays d'Europe, promettre et tenir font deux. Il avait donc dû repartir presque aussitôt, et plutôt piteusement, et assez penaud, solliciter sa réintégration dans ce nouveau cirque qu'il avait quitté en faisant claquer les portes. Naturellement, à la première répétition, après sa fugue malheureuse, Foutite fut accueilli par mille clignements d'yeux sournois, et des airs entendus, et des colibés, et des ricanements sans nombre. Il comprit qu'il lui fallait à toute force, et de préférence par la force, affirmer à nouveau sa supériorité, reprendre sa place. Le plus hardi parmi les railleurs s'approchait de lui en se dandinant et prononçait d'une voix gouailleuse. « Eh bien, monsieur Foutite est donc revenu ?» En silence, très flegmatique, Foutite enleva son veston. Après quoi, toujours flegmatique, toujours silencieux, il flanqua, c'est la véritable expression, il flanqua, par principe, un tel coup de poing dans le creux de l'estomac à son interpellateur, que le dit interpellateur s'assit par terre, sans avoir pu se préoccuper de savoir s'il y avait un siège derrière lui pour le recevoir. Puis, avec le même flegme, Foutite remit son veston. Et seulement alors, rompant le silence, il dit à l'interpellateur, qui, légèrement étourdi, était demeuré assis, « Vous voyez, donc monsieur Foutite est revenu. » Et là-dessus, la répétition reprit comme si de rien n'était, tout tranquillement et le plus cordialement du monde. Foutite avait reconquis son prestige, et nulle crainte que l'on se risquât, plus que précédemment, à abîmer ses effets. Mais Foutite savait bien que c'est le maximum de ce qu'un clown peut attendre de ses confrères. Il ne l'empêcherait pas d'avoir du succès, son succès, c'est entendu, mais pour ce qui serait de s'y associer, d'y aider, d'y contribuer, il n'y fallait pas songer. Et Foutite se désespérait à la pensée de tout ce qu'il y avait là, pourtant, dans sa tête de clown novateur, de tant d'idées comiques que rendait irréalisable l'impossibilité de trouver une collaboration, quelqu'un qui voulût bien et de franc jeu jouer avec lui. Chapitre 8. L'association Foutite Chocolat. Sur ces entrefaites, arriva à Paris le fameux Toddy Guis, qui, au cours d'une tournée d'Europe, avait été engagé au Nouveau Cirque pour une série de représentations. Le soir où il débuta, Foutite vint, après son numéro, le féliciter en bon camarade. Toddy Guis avait présenté la parodie du maître de manège, exercice où Foutite lui-même devait, par la suite, faire preuve d'une si prodigieuse drôlerie. Et, dans un coin de la loge, l'étonnant cheval se déshabilla. Des pattes de devant sortit Tony Toff, l'élève de Toddy Guis, que Foutite connaissait déjà. Et puis, ce fut un nègre qui, débarrassé des pattes et du train de derrière de l'animal postiche, pour le compte duquel il venait de cavalcader, ce fut un nègre qui parut devant Foutite. « Un nègre? Et vous le cachez ?» dit Foutite à Toddy Guis. « Alors, à quoi bon avoir un nègre? Et il a une très bonne figure !» Et après avoir serré la main de Raphaël, car c'était lui, Et Raphaël n'était pas médiocrement fier que le grand foutide qui avait tant admiré et applaudi à Madrid lui trouvât une bonne figure. Foutide se retira tout pensif, car il songeait qu'un nègre eût été pour lui, vraiment, le comparse rêvé. La face noire du nègre à côté de son masque enfariné de clown. Et puis, tout ce qu'un nègre évoque immédiatement de gaieté communicative et d'ahurissement joyeux. Mais Raphaël était à Tonéguis, et Foutite se fut fait scrupule de chercher à priver de ses services un confrère. Raphaël était encore plus au service de Madame Tonéguis qu'à celui de son mari. Paris l'amusait, surtout depuis qu'il avait découvert les Tuileries, et aux Tuileries, le guignol, dont il était devenu un spectateur. Spectateur à la corde, bien entendu, mais qui n'en était que plus assidu et enthousiaste. Tant qu'il avait fini par être déjà populaire parmi le petit public d'habitués, et que c'est pour la joie de ses habitués, des vieux habitués de 5 ans et demi, que Guignol s'avisa, un jour, d'interpeller le nègre qu'il apercevait toujours fidèlement posté derrière la corde. « Hé, là-bas, le chocolat !» Et telle est l'origine du nom, qui, ayant fait fortune parmi les enfants du quartier, fut répété de la rue de Rivoli à la rue Saint-Honoré et finit par franchir les portes du nouveau cirque. Raphaël ne s'arrachait qu'à contre-cœur aux délices de ces spectacles, et il ne se passait guère de jours sans que Madame Tonéguis ne protestât auprès de son mari contre l'inutilité d'un domestique qui n'était jamais là. Pourtant, Tonéguis hésitait à se séparer de ce garçon. Et sans doute l'aurait-il, sa série de représentations terminée, emmené avec lui en Allemagne, et peut-être ainsi ne se fut jamais créé l'admirable raison sociale. Folie serait ici plus juste que raison. La raison sociale, foutite et chocolat, sans l'incident du dîner de baptême. Les Tonéguis, qui avaient un jeune bébé, avaient voulu le faire baptiser avant de quitter Paris, et ce baptême leur fut un prétexte à convier à dîner tous leurs amis. Le soir du dîner, Chocolat, qui devait servir à table, arrive en retard comme d'habitude, s'empare aussitôt d'un plat que la cuisinière faisait passer à sa place, et dans son zèle et dans sa hâte, renverse sur Madame Tonéguis tout le contenu d'une saucière. « Admirable !» ne peut s'empêcher de murmurer Foutite, qui, assis en face, voit le jeu de physionomie de l'infortuné garçon après sa maladresse. Mais Madame Tonéguis, elle, n'était pas d'humeur à apprécier des jeux de physionomie, fussent-ils encore 100 fois plus plaisants. Sa robe, cette robe de Paris qu'elle avait fait faire pour étonner l'Allemagne, sa robe neuve, perdue, et toujours par la faute de ce damné Raphaël. « Tony ! » s'écria-t-elle, et l'on sentait que son exaspération était à son comble. « Tony, jurez-moi de me débarrasser enfin de ce sale nègre !» Et Tonéguis jura. Au moment de partir, Foutite prit Raphaël à part et lui dit « Allez donc trouver demain le directeur du nouveau cirque. Nous avons souvent parlé de vous ensemble, et je crois qu'il vous emploiera. » Et de fait, le lendemain, dès les premiers mots, le directeur offrait au nègre un engagement à 100 sous par jour. La fortune! Mais tandis que Raphaël exprime sa gratitude et que le directeur lui exprime ce qu'il attend de lui, tout à coup, au milieu d'une phrase, il s'arrête. Il fait visiblement un effort pour ne pas éclater de rire. Il se contient, il reprend, s'arrête encore. Le directeur est étonné, ce qui est assez naturel, lui qui ne voit pas Foutite. Foutite qui s'est approché à pas de loup et qui, derrière son dos, fait 1000 grimaces à Raphaël, imitant l'attitude du directeur, mimant ses paroles, répétant ses mouvements. « Ah, ça, qu'est-ce que vous avez, mon garçon ?» finit par demander le directeur. Et Raphaël, malgré ses efforts surhumains, n'arrive plus à se contenir. Il pouffe et peut seulement, d'un geste d'excuse, montrer, là, derrière le directeur, quelque chose, quelqu'un, et balbutier de sa voix étranglée par le rire, « C'est lui !» Et telle fut ainsi, tout de suite, avant la lettre, la première entrée comique de Foutite et Chocolat. Un premier soin de Foutite, lorsqu'il eut été décidé que Chocolat devenait un collaborateur ordinaire, fut de l'habiller. Non que la garde-robe de Chocolat fût demeurée aussi sommaire qu'au temps où Madame Tonigouis lui faisait revêtir les vieux pantalons de son mari. Mais il importait de trouver pour lui un costume approprié à son nouveau rôle, un costume qui, dès l'abord, disposa favorablement le public et ajouta au comique de ses entrées et des scènes auxquelles il allait prendre part. On était alors tout à la réjouissante invention du personnage d'Auguste qui venait de triompher sur la piste de l'hippodrome de l'avenue de l'Alma. Or, Foutite, observateur sagace et véritable psychologue du rite et de ce qui fait rire, Foutite, devant les créations de l'Auguste de l'hippodrome, avait eu cette conception ingénieuse. Ce qu'il y avait de plaisant chez Auguste, n'était-ce pas de voir un monsieur grave, un monsieur en cravate blanche et en chapeau haut de forme, se mêler aux facéties des clowns, échanger avec eux des gifles et des coups de pied, participer à leurs sauts périlleux et à leurs culbutes les plus folles? Mais la cravate d'Auguste lui remonte ridiculement dans le cou. Mais son chapeau a des ailes absurdes et, lustré à rebrousse-poil, défie le coup de fer. Rien à faire. Et son habit noir est, volontairement, de la coupe la plus grotesque. Or, ne serait-il pas, au contraire, infiniment plus drôle et d'un comique bien plus direct, bien plus intense, que les gifles et les coups de pied fussent reçus par un impeccable gentleman, et que ce fût ce même impeccable gentleman, toujours impeccable et toujours gentleman, que l'on verrait tout à coup faire la roue, sauter en arrière ou marcher sur les mains? Et combien plus original encore, et d'un effet plus sûr, irrésistible, si ce gentleman impeccable était un nègre! Le seul obstacle eût été peut-être que l'habit noir, pour un nègre, n'est pas très saillant, pas assez éclatant, ne tranche pas assez, noir sur noir. Mais précisément, c'était le temps où, dans les bals et les réceptions, quelques élégants, donnant le ton, s'efforçaient de mettre à la mode l'habit de couleur et les culottes courtes. Chapitre 10. Quelques numéros sensationnels. Un beau soir, réalisant l'ingénieuse conception de Foutite, Chocolat parut au nouveau cirque, dans le galant équipage d'un mondain qui s'apprête à aller conduire le cotillon à la soirée de l'ambassade. Souliers vernis, bas de soie, culottes de satin, habits rouges. Entre les habits de couleur, on avait choisi l'habit rouge, le mieux propre à faire ressortir le noir du visage. Habit rouge. La boutonnière fleurie, et sur la tête, un magnifique chapeau qui brillait comme un phare de tout l'éclat de ses 8 reflets. Et dire que ce monsieur si comme il faut, si chic, était la proie destinée aux gifles impertinentes du clown au maillot bariolé, au visage enfariné et au petit bonnet en cône. Car telle est la conclusion nécessaire, l'aboutissement inéluctable des dialogues entre Foutite et Chocolat. « Monsieur Chocolat, je vais être obligé de vous gifler. » Foutite, méfiant et sombre, s'approche de Chocolat. « Je vous préviens, monsieur Chocolat, si vous m'avez pris quelque chose, je vais être obligé de vous gifler. » Et gravement, il fouille dans ses poches à lui, Foutite. Il explore les profondeurs de sa poche droite, dont il ne retire que la doublure. Après quoi, d'un geste semblable, il tire la seule doublure de sa poche gauche. Et ayant ainsi constaté, et fait constater, qu'il n'y a absolument rien, ni dans sa poche gauche, ni dans sa poche droite, Foutite conclut, d'un petit ton satisfait, « Allons, monsieur Chocolat, je vois que vous ne m'avez rien pris, mais je vais vous gifler, parce que je croyais que vous m'aviez pris quelque chose. » Il est malaisé de raconter les 1000 inventions par lesquelles Foutite se classe, non seulement comme un artiste, mais même comme un auteur dramatique de premier ordre. Car c'est lui-même qui, pour la plupart, a composé les petites scènes d'un comique aussi violent que rapide dans lesquelles nous l'avons tant de fois applaudi. Mais comment écrire le théâtre de Foutite et Chocolat? Il y manquera le ton, d'abord. cette voix admirable, aiguë et mordante de Foutite, cette voix qui détache les syllabes avec la même précision que ses jarrets détachent les coups de pied. Et l'accent, cet accent anglais qui donne aux paroles un charme tout particulier et comme une saveur nouvelle. De même qu'en Angleterre, l'amusement du public sera d'entendre Chocolat écorcher l'anglais. Car c'est l'avantage de Chocolat qu'aussi bien l'anglais que le français, ils parlent l'une et l'autre langue comme un nègre espagnol. Mais Chocolat n'a pas l'organe claironnant de Foutite. Il n'a pas non plus sa mimique si extraordinairement expressive. Comment retracer les jeux de physionomie de Foutite? Je ne sache pas de comédien dont le masque apparaisse aussi mobile, et cela avec le maquillage incomplet et sous la lumière crue du cirque. Il est deux sentiments que Foutite excelle, entre tous, à exprimer l'excès. C'est la colère et c'est la terreur. Quiconque a vu Foutite, dans la scène fameuse où il est contraint de se battre en duel avec Chocolat, ne saurait oublier son visage blême, claquant des dents, les yeux agrandis, les épaules tremblantes, les genoux qui s'entrechoquent, et tout son corps comme une loque, le dos voûté et les épaules comme rapetissées du poltron. Mais quand Foutite est en colère, ah, l'on comprend que Chocolat n'emmène pas large. Le visage de Chocolat est plus impassible, c'est que sa physionomie est peu compliquée et les sentiments peu variés dans sa cervelle bornée. « Monsieur Chocolat, vous êtes un imbécile. »«
Vous dites ?»«
Je dis, vous êtes un imbécile. »«
Non. »«
Imbécile. »«
Ne répétez pas ou je... »«
Vous êtes un idiot. » Chocolat sera sirène.
« À la bonne heure, je veux bien un idiot, mais je ne veux pas que vous disiez un imbécile. »
Parfois, cependant, Chocolat prend sa revanche.
« Monsieur Chocolat, vous savez ce que c'est qu'un téléphone ?»
Et Foutite, empruntant la chambrière de l'écuyer, l'allonge à terre, s'installe à genoux près du manche et enjoint à Chocolat de coller son oreille à l'autre extrémité, contre la mèche du fouet.
« Allô, allô, vous m'entendez ?»«
J'entends. »«
Allô, allô, monsieur Chocolat ?»«
Monsieur Foutite ?»«
Allô, voulez-vous me prêter 5 francs ?»«
Allô ?»«
Me prêter 5 francs ?»«
Quoi ?»«
Monsieur Chocolat, si vous n'entendez pas, je vais être obligé encore de vous gifler. »«
Je n'entends pas parce que votre téléphone ne marche pas. »
« Venez à ma place, vous allez téléphoner, nous allons bien voir. Et je vous préviens, monsieur Chocolat, si le téléphone marche, je vous donne une gifle. »
Chocolat prend la place de Foutite, Foutite la place de Chocolat. Et Chocolat téléphone.
« Allô, allô, vous m'entendez ?»«
J'entends très bien. »«
Voulez-vous me prêter 100 sous ?»
Alors Foutite, se relevant prestement,
« Vous avez raison, monsieur Chocolat, le téléphone est cassé. »
Mais le plus souvent, Chocolat fait preuve d'une intelligence moins déliée.
Écoutez, Chocolat, et devinez, connaissez-vous quelqu'un qui est né de mon père et de ma mère, et qui n'est pas mon frère, et qui n'est pas ma sœur? Vous ne devinez pas? Quelqu'un qui n'est ni mon frère ni ma sœur, et qui est le fils de mon père et de ma mère? C'est moi!
Chocolat trouve cette devinette admirable, et tout fier et désireux d'en étonner les autres, il se précipite vers un écuyer.
« Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, et pourtant c'est l'enfant de mon père et de ma mère. Qui est-ce ? »
« C'est vous ? » répond l'écuyer.
« Mais non, c'est Foutite !»
Chocolat a une grande confiance dans Foutite, dans la science et les capacités intellectuelles de Foutite. N'est-ce pas Foutite qui lui a donné cette définition de la pensée qui ne déparerait pas sans doute un manuel de philosophie?
Penser, c'est laisser monter des paroles jusqu'à sa bouche. Et,
fronçant les sourcils, en serrant les dents, en pinçant les lèvres,
les retenir.
Aussi, l'autorité de Foutite sur Chocolat est considérable, impérieuse, tyrannique.
J'ai soif, dit Chocolat.
Avez-vous de l'argent ?
S'informe Foutite.
« Je n'ai pas d'argent. Alors fut-il péremptoire.
Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas soif.
Il est naturel, et l'on s'y attend un peu, que Foutit abuse parfois de son ascendant sur Chocolat, jusqu'à tenter d'en faire sa dupe. Ce n'est peut-être pas très moral, mais encore une fois, étant donné le personnage de Foutit et le personnage de Chocolat, encore une fois, cela ne laisse pas d'être bien naturel. Donc Foutit propose à Chocolat ce petit jeu. Il cache ses mains derrière son dos, et Chocolat va deviner si Foutit tient les paumes ouvertes ou les poings fermés. Un coup pour rien.
Comment les poings ?
Fermés, dit Chocolat. Et Foutit de présenter ses poings fermés en effet.
Vous voyez, vous auriez gagné. Encore pour rien ?
Le même manège recommence.
Ouvert, dit Chocolat.
Et Foutit s'empresse de montrer que pour la seconde fois, Chocolat aurait gagné 100 sous.
Cette fois, on va jouer pour de bon. Fermé, dit Chocolat.
Et bien entendu, Foutit, qui tenait ses poings fermés derrière son dos, montre triomphalement ses mains ouvertes. Chocolat a perdu. Et lorsqu'après deux ou trois expériences également néfastes, Chocolat, qui tout de même finit par se douter de quelque chose, veut être à son tour celui qui fera deviner, Foutit s'y refuse avec énergie et conclut par cet apophtegme plein de sagesse « Le bon sportsman est celui qui gagne toujours ». À travers le grossissement comique, cette petite scène, c'est tout simplement celle que les bonneteurs, au retour des courses, jouent, à peu de choses près, aux parieurs malheureux à qui ils offrent la partie dite de « consolation ». Foutit, joueur enragé comme on sait, était payé, ou plus exactement, avait payé souvent pour la connaître, cette petite scène. Et nous constatons ici l'utilisation fréquente, faite par le talent de Foutit, des traits que l'observation aura pu lui fournir.
Chapitre 10. L'esprit des clowns.
Un observateur. Foutit a montré combien il méritait ce titre dans les parodies auxquelles il se livre. Sa parodie notamment de « La mort de Sarah Bernard », qui est un de ses numéros les plus réussis. Et ce fut à un moment où les chansonniers de Montmartre avaient établi leur quartier général au foyer du nouveau cirque, ce fut alors que Foutit conçut et exécuta sa délicieuse parodie du chansonnier. Foutit s'avance au milieu de la piste, salue gravement, prévient le public qu'il va chanter « La petite maison ». Annonce. Premier couplet. Et il commence. « À la maison nous n'irons plus, à la maison nous n'irons pas, à la maison nous n'irons jamais pas. À la maison nous n'irons plus, à la maison nous n'irons plus, à la maison nous n'irons pas. » Chocolat s'approche, curieusement. Foutit chante toujours. Chocolat s'impatiente, il frappe sur l'épaule de Foutit. Foutit continue. Chocolat frappe plus fort. Foutit alors s'interrompt, gifle Chocolat. Puis il recommence, annonçant à nouveau. Premier couplet. À la maison nous n'irons plus, à la maison nous n'irons pas. Chocolat s'approche une seconde fois. Très doucement, il se met à donner un coup de pied à Foutit. Très doucement, puis un peu plus fort, puis de plus en plus fort, 10 coups de pied, 20 coups de pied, 100 coups de pied, de la jambe droite d'abord, puis de la jambe gauche, cela sans que Foutit feigne de s'en apercevoir, sans qu'un seul instant imperturbable il ait interrompu sa chanson. Tant qu'à la fin, Chocolat n'en pouvant plus, les deux jambes fourbues tombent épuisées. Foutit s'arrête, le contemple à terre d'un air méprisant. Puis, avec un geste d'excuse au public pour l'incartade de ce rustre dépourvu de goût, il salue encore et annonce qu'il recommence le premier couplet. « À la maison nous n'irons plus, à la maison nous n'irons pas, à la maison nous n'irons jamais pas. » Et il ne faut rien moins pour le faire taire que l'intervention de deux garçons d'écurie qui le portent jusqu'à la sortie, chantant toujours. On suit aisément toute la portée littéraire de cette scénette. Nous voudrions, pour finir, en citer une autre dont ne saurait échapper à personne la portée sociale. Nous empruntons le récit, spirituel et exact, à un commentateur, car le théâtre de Foutite a déjà ses commentateurs, ce qui semble bien indiquer qu'il est en passe de devenir classique. Une barrière, c'est la gare. Une pile de chaises est un train qui part pour Asnières. Arrivent trois voyageurs, un écuyer, un garçon d'écurie et Chocolat. Foutite est l'employé du chemin de fer. Une grosse cloche à la main, il annonce le départ du train. L'écuyer se présente. « Quelle classe ?» demande Foutite. « Première. » On voit alors le clown accompagner ce personnage de marque avec tous les signes du plus profond respect. Il a retiré son bonnet pointu, il se fait petit, il est pendu à ses yeux, suit ses désirs pour les devancer presque, attentif, respectueux, servile. Arrivé dans son compartiment, il l'installe pour le mieux, a pour lui des soins de mère, et en s'en allant, regarde, à chaque instant se retourne, pour voir si ses services ne seraient pas encore utiles. Deuxième voyageur, le garçon d'écurie. « Quelle classe ?»« Seconde. » Foutite regarde le voyageur d'un air hautain et le pousse même pour le forcer à avancer plus vite. Ces deux scènes n'existent que pour préparer la troisième, qui à elle seule est toute une philosophie. C'est le tour de Chocolat. « Quelle classe ?» Chocolat, en voyant la façon dont le voyageur de deuxième classe a été traité, se gratte la tête. « Quoi ?»« Troisième. » Ah, le malheureux, ce n'est pas avec du mépris qu'il est conduit. C'est avec une série de coups, de gifles. Il est jeté par terre, trépigné. Ses bagages, on les lui jette à la tête. Et il faut se dépêcher. Va-t-on faire attendre un train pour un nègre ? Et de troisième classe encore ? Le même commentateur, M. Ernest Nomi, a écrit à propos de nos deux héros « Ils ont chacun leur caractère propre, connu d'avance du public. Foutite, c'est le maître despote, entêté, d'une intelligence bornée sur certains points, mais très bien sur d'autres. Mauvais, taquin, lâche avec les grands, autoritaire avec les petits. Chocolat, au contraire, est le nègre souffre-douleur, qui obéit. Infortuné, sans se plaindre, mais qui reste paresseux et dont le masque impassible laisse le spectateur indécis de savoir s'il a devant lui une brute achevée et sans cervelle ou un malheureux très intelligent, qui connaît sa déchéance morale, qui comprend tout, mais ne dit rien parce que cela ne servirait à rien. Passionnant sujet de dissertation, de controverse et d'analyse. Et nous pensons bien que le jour est proche où, plutôt que de comparer les héros de Racine et de Corneille, ou le personnage de l'avare dans Plaute et dans Molière, les professeurs demanderont à leurs élèves, ce qui en somme les touche de bien plus près et serait de nature à les intéresser bien davantage, d'établir un parallèle entre Foutite et Chocolat. Chapitre 11. Foutite et Chocolat en famille. Ce n'est pas, à mon avis, un mince honneur pour les petits Parisiens que leur goût éclairé et la ferveur et la fidélité de leur suffrage aient donné à Foutite et à Chocolat Paris comme ville d'élection, et mieux, comme patrie adoptive. Foutite me l'a dit, et j'en étais sûre. De tous les publics d'Europe devant qui il se présenta et qui lui firent fête, ce sont bien les jeunes Parisiens, nos fils, et mon patriotisme n'en est pas médiocrement fier, qui comprennent le mieux, le plus vite, et dont l'accueil est, non pas le plus bruyant, mais le plus sympathique. Pas le plus bruyant. Il paraît qu'il faut revendiquer ce genre de manifestation pour l'Espagne. Les petits Espagnols crient, trépignent. Le soleil, évidemment, et aussi l'entraînement des courses de taureaux. Ces trépignements, ces cris, ne laissent pas, certes, d'être assez flatteurs. Mais par contre, il y a ceci de terrible qu'à certains moments, sans raison, simplement parce qu'il est mal disposé ou disposé différemment, le public qui fréquente les cirques, en Espagne, décide de ne point laisser parler les clowns, fût-ce son clown le plus aimé, son clown favori, même foutite. Et alors, le clown a beau faire, il a beau prendre sa voix la plus comiquement aiguë, lancer ses plus populaires ladzi, du haut en bas des gradins, tous les enfants, tous les amateurs, tous les aficionados de la piste sont là qui protestent « Salta, salta !» Et le malheureux artiste n'aura qu'une chose à faire, qui est de sauter, en effet. Saut périlleux en avant, en arrière, et la roue, et le poirier, et mille pirouettes, jusqu'à ce que le public, satisfait et calmé, lui permette de recommencer son entrée, et ses jeux de mots, et ses farces avec l'écuyer. Bref, tout ce qui constitue la littérature de son rôle, tout ce qui, en un mot, est la gloire d'un homme comme Foutite, et son inimitable génie. Il est donc naturel que Foutite préfère à ses enthousiasmes exubérants mais capricieux des Espagnols, par exemple, la sympathie plus discrète mais toujours attentive et cordiale et chaleureuse qu'il sent si vive et si sincère dans son cher public de Paris. Le fait est que tous les enfants de Paris ne jurent que par Foutite. Ils ont pour lui une admiration presque religieuse. Ils en rêvent. Je sais pour ma part que les visites que voulurent bien me faire Foutite et Chocolat pour me conter leur vie et que je puisse ici transcrire leur mémoire, ces visites ont eu dans ma maison une influence, un retentissement prodigieux. Et j'ai obtenu de mes petits garçons des heures de sagesse exemplaires, simplement parce que Foutite allait venir, et que s'il n'était pas sage, je le dirais à Foutite. Et d'ailleurs, l'histoire n'est-elle pas connue, si jolie et attendrissante, de ce bébé gravement malade, qui, dans sa fièvre et son délire, réclame Foutite, veut voir Foutite, son Foutite. Et le père affolé s'informe du clown, accourt auprès de lui, le supplie, l'emmène. Foutite vient, rit à l'enfant, lui fait une grimace, le fait rire. L'enfant est guéri. Cure émouvante et merveilleuse. En vérité, je vous le répète, je ne comprends pas que nous n'utilisions pas davantage, nous, pères de famille, l'influence de Foutite, sinon pour la santé, au moins pour l'éducation de nos enfants. Et je tiens qu'il y aurait pour Foutite une situation considérable à prendre, une situation morale qui le place à peu près à mi-chemin entre Croque-Mitaine et Saint-Nicolas. Et puis, Foutite n'est-il pas dans les meilleures conditions requises pour comprendre les enfants et s'en faire comprendre? Lui qui a trois garçons et une fille, et qui les aime bien, je vous le garantis. Et il n'est pas besoin d'en parler longuement avec lui pour s'en convaincre. Georges, le flegmatique, et Tommy, n'est-ce pas Tommy que secrètement Foutite préfère, ce Tommy qui lui ressemble tant. Et la jolie Lily, si blonde et gracieuse et frêle, et cet impayable et comique petit, ah oui. Je songeais, cependant que Foutite me retraçait complaisamment et avec un paternel orgueil les prouesses de ses fils, je songeais à cette anecdote de je ne sais quel poète étranger. Un enfant, un orphelin, s'est approché de la tente que des saltimbanques viennent de dresser sur la place du village. Il y a là un autre enfant, l'enfant de ces saltimbanques, qui vient à lui et l'interroge. « Tu n'as pas de père ? Le mien a un visage tout enfariné, et il fait des culbutes et des grimaces qui sont les plus plaisantes qui soient. Pas de mère non plus ? Ma mère à moi mange de l'étoupe, et quand elle danse sur la corde, tout le monde bat des mains et trépigne de joie. Vois-tu, les parents sont des gens très drôles et qui nous font rire. » Et l'autre, le pauvre petit orphelin, s'éloigne, pensif, en réfléchissant que ce doit être, en effet, une chose bien agréable que d'avoir des parents. Et je me représente la curiosité émerveillée des élèves et les clignements d'œil et les coups de coude et les chuchotements que devait provoquer Foutite lorsqu'il venait au petit pensionnat de Nogent-sur-Marne où ses fils ont fait leurs études, lorsqu'il venait, heureux père, couronner Georges et Tommy à la distribution des prix. Car les enfants de Foutite ont été d'excellents élèves.
ils étudiaient avec ardeur, avec soin. Et rien, en somme, n'eût empêché qu'ils devinssent avocats ou receveurs de l'enregistrement. Ils parlent et écrivent le français tout à fait correctement. Et c'est la joie de Foutite, autour de la table de famille, de se faire reprendre sur son accent à lui, par Tommy, par Georges, ou même par le jeune Howie. Mais quand on est le fils de Foutite, le moyen de se passionner uniquement pour les analyses grammaticales ou les problèmes d'arithmétique. Et entre les analyses et les problèmes, c'était Georges, c'était Tommy qui venait implorer son père. « Oh, papa, je voudrais faire ça !» Ça, c'était un tour que le père avait répété, un exercice de force ou de souplesse que les enfants rêvaient d'exécuter eux aussi, et que Foutite leur expliquait, leur apprenait, en effet, lorsqu'ils avaient terminé ou le problème ou l'analyse, pour les récompenser lorsqu'ils avaient de bonnes notes. Et c'est ainsi que les enfants de Foutite sont devenus clowns à leur moment perdu, ou que, du moins, ils ont acquis cette grâce de mouvement, robuste et agile, dont leur père, pour en être encore une fois moins fier que de leur connaissance scolaire, dont leur père peut tout de même à bon droit s'enorgueillir. À deux reprises déjà, la vie ne s'est-elle pas chargée de leur montrer toute l'importance pratique des leçons paternelles? Ce fut ce jour d'abord, ce jour déjà ancien, où, descendu sur le quai des Tuileries, Georges, qui avait alors 14 ans, et Tommy, 12, pêchaient à la ligne, tandis que le petit Howie jouait auprès d'eux. Emporté par l'ardeur du jeu, cependant que ses frères, eux, étaient tout aux ardeurs de la pêche, Howie s'approche un peu trop près de la berge, fait un faux pas et glisse dans le fleuve. Mais ce n'est pas, heureusement, en vain que le nouveau cirque a une piste nautique. Georges et Tommy se précipitent, parviennent à maintenir Howie hors de l'eau. Une sapine flotte non loin, ils nagent vers elle, s'y accrochent, et d'un rétablissement vigoureux s'y installent avec leur jeune frère, et peuvent attendre, en sûreté, qu'on les vienne chercher et sauver. J'imagine que ce jour-là, Tony eut beau jeu auprès de son père, à le persuader de la supériorité de l'acrobatie, ou pour le moins de la natation, sur toutes les sciences et toute la pédagogie du pensionnat de Nogent-sur-Marne. Car c'est assurément Tommy qui a le plus du sang de clown, et dans les veines, l'amour passionné de cette profession. Et il faut dire qu'à lui aussi une circonstance imprévue permit d'apprécier les avantages que la vie semble réserver aux acrobates. N'est-ce pas lui qui, renversé en plein faubourg Saint-Honoré, par un cheval attelé à une tapissière, se souvint à propos des théories et des exemples de son père, et déboulant adroitement entre les jambes du cheval, comme un acrobate, qui, sur la piste du cirque, manque son coup et se relève en grâce, en fut quitte pour quelques contusions légères. Sinon, c'en était peut-être fait du continuateur de Foutite, car j'ai dans l'idée que ce jeune Tommy sera le Foutite de nos fils, comme Eugène en sera le chocolat. Eugène Raphaël, est le fils de Chocolat. Chocolat est en effet, lui aussi, marié et père de famille, et la noce de Chocolat ne fut pas qu'une pantomime. Famille vraiment patriarcale que celle de Chocolat. N'ai-je pas là, sous les yeux, une superbe photographie du joyeux nègre, en habit de soirée, gilet et cravate blanche, gardénia à la boutonnière, et raie impeccable partageant par le milieu ses cheveux crépus. Et cette photographie est ainsi dédicacée. Offert à ma mère pour sa fête, Marie. Marie. Madame Marie Raphaël, qui écrivit ces lignes d'une écriture fort élégante, ma foi. C'est elle, le secrétaire habile et zélé de Chocolat. Madame Raphaël envoyant, pour la fête de sa mère, la photographie de son mari. Famille vraiment patriarcale, je le répète, et ne saurait trop le répéter, que celle où la photographie du gendre est le souvenir le plus précieux, le plus agréable cadeau dont se réjouira le cœur de la belle-mère. Et voilà qui prouve bien que,
lorsque, au cirque, Chocolat fait chorus avec Foutite dans ses plaisanteries contre les belles-mères, qui sont, comme chacun sait, les plus irrésistibles de toutes les plaisanteries, et qui font rire jusqu'aux petits-enfants. De confiance. Ce n'est là pour Chocolat que de la littérature. Et littérature encore, rien que littérature, la scène fameuse et classique où Foutite, avec les marques extérieures du désespoir le plus profond, vient raconter à Chocolat qu'il a perdu son pauvre femme. Sa femme qui vient d'être tuée d'un coup de pied de cheval, un cheval dont c'est la spécialité. Il a fait déjà plus de 100 victimes. D'assommer ainsi l'épouse de son propriétaire. « Voilà précisément le cheval qu'il me faut, » dit Chocolat. « Voulez-vous me le vendre ?»« Non. »« 3 000 francs. »« Non. »« 5 000. »« 10 000. »« Aucun prix. »« Mais enfin, pourquoi ?» s'étonne Chocolat. « Un cheval qui assomme les femmes, qui vient d'assommer votre femme. »«
Eh, c'est justement, » riposte Foutite. « Je pourrais me remarier. »
Foutite et Chocolat se vantent. Ils ne sont pas des époux si féroces. Et ce sont, par-dessus tout, d'excellents pères de famille. Nous l'avons déjà montré pour Foutite. Quant à Chocolat, parlez-lui un peu de Gêne et de sa petite Suzanne. Eugène a 14 ans. Sous la direction éclairée de son père, il sait tout ce qu'un jeune homme doit savoir à 14 ans lorsqu'il veut et doit être clown.
« À son âge, je n'en savais pas tant !»
nous confie avec émotion M. Raphaël. « Oui, souhaitons que Gêne continue Chocolat, comme Tommy continuera Foutite. Souhaitons-le pour nos fils et nos petits-neveux, pour leur amusement, pour leur joie. » Et nous le souhaiterions aussi pour nous-mêmes. Foutite et Chocolat, ce fut notre jeunesse, et nous nous apercevrons moins vite que nous vieillissons s'il y a toujours un Foutite et un Chocolat. Fin de l'enregistrement de Les Mémoires de Foutite et Chocolat de Franck Nohain.